Eh bien, bonjour à tous, salut à tous les auditeurs de toutes les radios qui nous écoutent, et donc, dans les pas du docteur Francus, rediff de l'été. Alors, on vous promet une bonne émission, vous allez voir, c'est pas mal, il y a plein de choses sympas aujourd'hui. De la rigolade, des interviews, de la bonne musique. Bon, de quoi passer une bonne partie de l'après-midi. Comme c'est une rediff, je ne sais pas quel temps il fait chez vous. En tout cas, j'espère en tout cas que le temps est beau et que vous pourrez nous écouter tranquillement aussi en podcast, pourquoi pas. Alors, on va commencer dans la foulée par quelque chose de plutôt rigolo. C'est un vieux classique, c'est un machin, c'est absolument extraordinaire que j'adore. C'est Francis Blanche et Pierre Dac dans... Attendez que je règle mes micros de façon à ce que ce soit à peu près audible. Voilà, nous y sommes. Je disais donc que c'est vraiment un moment assez extraordinaire un sketch de Pierre Dac et de Francis Blanche. Bon, il est classique, hein, vous le connaissez, j'en suis sûr. C'est le Sarah Bindrana Duval. Oui, bon, il faut reconnaître que quand ils ont fait le sketch, ils étaient pas très 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 clean, si j'ose aussi m'exprimer. Bref, c'est clair, c'est comme ça. Ils avaient bu un petit canon, même un peu plus qu'un seul d'ailleurs, ils en avaient bu plusieurs. Et donc, ils étaient dans un état frisant, comment dirais-je, pas l'inconscience, mais presque. Toujours est-il que c'était plutôt poilant. Donc, on va se prendre un petit coup de Sarah Bindrana Duval. On introduit la chose. Voilà, ça vous met déjà dans l'ambiance de ce que vous allez écouter. Déjà rien que ça, ça fait rigoler puisque ça ne veut pas partir, mais ça va le faire. Non, ça recommence, rassurez-vous, on va y arriver quand même. Normalement, ça devrait être bon. Mais tais-toi, arrête, tu nous embêtes. Pourquoi tu nous fais ça, là? Hein? Quand même. Allez, c'est parti.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le grand plaisir honorifique de présenter à vous ce soir, n'est-ce pas? Tout à fait exceptionnellement, dans le plus simple appareil, une beauté qu'on vient d'arracher, on ne sait pas quoi d'ailleurs, n'est-ce pas? Vous présentez le Sarah Rabindrana Duval, qui est le descendant authentique des grands sars, des grands visionnaires de l'Inde, n'est-ce pas? Votre sérénité. Vous avez bien dîné déjà. Vous descendez. Vous descendez des grands sars de l'Inde, n'est-ce pas?
Oui.
Vous êtes né dans l'Inde?
Je suis né dans l'Inde.
À quel endroit dans l'Inde?
À Châteauroux.
C'est extraordinaire, vraiment. D'ailleurs, je crois savoir des sources sûres que vous. Que votre père était hindou.
Hindou, oui.
Oui, votre grand-père.
Hindou.
Et votre arrière-grand-père.
Bien hindou.
Voilà. Donc, par conséquent, n'est-ce pas, là, depuis de longues années, la pratique de la vision hindoue. Dites-moi, votre sérénité, vous avez répondu. Vous avez le don de double vue.
Oui.
N'est-ce pas?
Je vois double.
Il voit double. Je m'en doutais un peu d'ailleurs, n'est-ce pas? Vous voyez double, mais c'est héréditaire.
Héréditaire?
Oui, c'est à ta vie.
Non, c'est à moi.
Non, ma fille. Je veux dire, c'est congénital.
Non, c'est quand j'ai trop bu. Oui.
Ça revient au même, n'est-ce pas? Il faut dire, n'est-ce pas, je tiens absolument à préciser que sa sérénité fait de grands exercices tous les jours, quotidiennement presque, n'est-ce pas, pour conserver son don de double vue. Il fait le yoga, n'est-ce pas, vous faites le yoga?
Oui, oui.
Avec le... Oui, c'est ça. C'est le yoga de...
De la narine.
C'est ça, le yoga de la narine. n'est-ce pas? Et il surveille également de très près son alimentation. Quelle est votre alimentation? Qu'est-ce que vous prenez pour votre dîner?
Uniquement la cuisine à l'huile.
À la cuisine des sards?
Avec tous les sards, oui.
Oui, mais pourquoi?
Parce que les sards dînent à l'huile.
Parce que les sards dînent à l'huile, n'est-ce pas? Vraiment, c'est pas tiré par les cheveux du tout, parce qu'il n'y en a plus, n'est-ce pas? Non, mais c'est vraiment extraordinaire. Alors, si vous permettez, nous allons nous livrer sur quelques personnes de l'assistance publique, n'est-ce pas, à des expériences tout à fait extraordinaires. Votre Sérénité, je vais vous donner un microphone, n'est-ce pas, qui est entièrement démontable et complètement cassé. Parce que c'est... Pardon. Voilà. C'est tout sans fil. Voilà. Votre Sérénité, n'est-ce pas, je vais vous demander de vous concentrer soigneusement. Voilà. Vous êtes concentré?
Je suis concentré.
Il est concentré, comme on dit chez Nestlé. C'est parfait. Votre Sérénité, concentrez-vous bien. Vous
oui.
êtes en transe?
Oui, je suis en transe napolitaine.
En transe napolitaine. Je pense que vous dites qu'il a chaud. Votre Sérénité, alors concentrez-vous bien. Dites-moi, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur?
Je suis placé sous le double signe zodiacal du lion et du fox à poil nu.
Oui. Dites-moi, quel est son caractère?
Impulsif, parallèle et simultané.
Oui. Quel est son avenir?
Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour.
Ah, c'est voulu, n'est-ce pas? Il est vraiment extraordinaire. Voulez-vous, je vous dis, à présent, s'il vous plaît, me donner le signe zodiacal de mademoiselle?
Mademoiselle est placée sous le triple signe bénéfique de la Vierge, du Taureau et du Sagittaire avant de s'en servir.
Ah! C'est bien, Lisa, n'est-ce pas? C'est ça, il a raison, il l'a mis dans le mille, Il l'a mis dans le mille, comme disait Jean-Jacques Rousseau. Dites pas, votre Sérénité, au lieu de vous marrer comme une marée. Sa Sérénité, n'est-ce pas, est en proie aux divinités contraires de l'Inde. Brahma et Vishnu, n'est-ce pas? Brahma, la guerre, et Vishnu, la paix.
Oui.
Voulez-vous me dire, s'il vous plaît, votre Sérénité, n'est-ce pas? Voulez-vous me dire quel est l'avenir de mademoiselle?
L'avenir de mademoiselle est conjugal et prolifique.
Ah, prolifique?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Elle aura des enfants?
Oui.
Des enfants?
Des jumelles.
Des jumelles! Combien?
Une paire.
Ah.
Avec la courroie et l'étui.
Avec la courroie. Voulez-vous à présent me dire, je vous prie, quel est le signe zodiacal de monsieur?
Monsieur est placé sous le signe de Neptune, Mercurochrome.
Ah. Quels sont ses goûts?
Monsieur a des goûts sportifs.
Oui, son sport préféré?
Le sport cycliste.
Tiens, il peut pratiquer sans inconvénient?
Oui, mais à condition toutefois... De se méfier.
Se méfier de qui? De quoi?
De certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale exerce une fâcheuse influence sur son comportement sentimental.
Ah! Encore une fois, vous avez mis dans le mille. Mais dites-moi... Qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal?
Je lui conseille vivement de ne pas changer de braquet et de surveiller son guidon.
C'est vrai! Votre Sérénité, alors, tout à fait autre chose à présent, voulez-vous me dire quel est le sexe de monsieur?
Masculin.
Oui? Vous êtes certain?
Oui, vous pouvez vérifier.
Non, mais... Non. On vous croit sur parole. Dites-moi, quelle est sa taille?
Sa taille, 1m76 debout, 1m56 assis, et 0m83 roulé en boule.
Ah bon, c'est parfait. Et dites-moi, il pèse combien?
Bon, 2 fois par mois.
Non, votre... Excusez-le, n'est-ce pas? Ne comprend pas bien le français, n'est-ce pas? Non. Je vous demande quel est son poids, POIX, n'est-ce pas? Excusez-le.
72 kg 500 sans eau, sans gaz, ils ont de l'électricité.
Oui. Dites-moi, quel est le degré d'instruction de monsieur?
monsieur.
Secondaire.
Oui, c'est exact. Est-ce que monsieur a des diplômes?
Oui.
Oui.
Monsieur est licencié.
Ah, licencié.
Licencié GL.
Licencié GL, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il travaille au Garé Lafayette et qu'on foutu à la porte.
Ah! S'il vous plaît, votre sérénité, concentrez-vous bien. Et combien monsieur a-t-il dedans?
Eh?
Combien monsieur a-t-il dedans?
30 dedans et 2 dehors.
Voilà, très bien. Monsieur a-t-il des complexes?
Oui, monsieur fait un complexe.
Ah, quel complexe?
À certains moments, il prend sa vessie pour une lanterne.
Ah! Et alors?
Et alors, il se brûle.
Eh oui, ça c'est vrai. Votre sérénité, mais bien sûr, dites-moi votre sérénité, mon petit bonhomme. Dites-moi, de quelle nationalité, madame?
Française.
Oui, et son père?
Esquimau.
Oui. Et sa mère?
Pochette surprise.
Très bien. Et ta sœur?
La sœur est pas le beurre quand t'es pas
le beurre. Mais non, ça
escroc.
T'es fait là.
Voilà.
Espèce de mal élevé. Mauvaise éducation, excusez-le. Il n'a pas longtemps. Et il en a une touche là-dessus, tiens. Et encore, il y a 3 ans, il n'avait même pas un plateau, n'est-ce pas? Il avait directement le pied de la table. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, n'est-ce pas? Ouais. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, pouvez-vous me dire...
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Je peux vous dire que vous avez plus votre texte.
Si vous êtes si intelligent, dites-moi donc ce que je dois vous demander à présent. Votre sérénité, pouvez-vous me dire, c'est très important, concentrez-vous. Pouvez-vous me dire quel est le numéro du compte en banque de monsieur?
Oui.
Vous pouvez le dire?
Oui.
Vous pouvez le dire?
Oui.
Il peut le dire, bravo, c'est extraordinaire. Alors, c'est vraiment sensationnel. Votre sérénité, quelle est la nature du sous-vêtement de monsieur?
Monsieur porte un slip.
Oui. De quelle teinte?
Saumon fumé.
Tiens, tiens. En quoi est-il?
En chachelic mercerisé.
Ah! Et là, un signe particulier?
Oui, il y a quelque chose d'écrit dessus.
Quoi donc?
Suivez la flèche.
C'est venu! Votre sérénité, monsieur que voici, que voilà, a-t-il... Monsieur, il est sourdingue en plus, ou alors il est rond. Votre sérénité, monsieur a-t-il un signe particulier?
Oui, un tatouage.
Ah, un tatouage, très intéressant, oui. N'est-ce pas? C'est bien examiné, c'est bien... Je ne lui fais pas dire, c'est bien exact. Et où se trouve situé le tatouage de monsieur?
Je suis extrêmement fatigué, je m'excuse.
Mais non, alors, voyons.
Mais c'est très délicat, mais c'est froid et je suis très fatigué.
Non, monsieur Schumacher, s'il vous plaît. Il est dans un état épouvantable, excusez-le, n'est-ce pas? Il m'arrive dans la... Votre sérénité, je vous demande où se trouve situé le tatouage de monsieur.
Le tatouage de monsieur est situé à un endroit que l'honnêteté et la décence m'interdisent de préciser davantage.
Ah bon? Mais qu'est-ce que vous entendez par là?
Oh, par là, j'entends pas grand-chose. Non, mais... Je vais sur consent.
Espèce de malotrou. C'est normal d'ailleurs, elle n'a pas lieu de s'asseoir. Alors que représente le tatouage de monsieur, s'il vous plaît?
Bon, le tatouage de monsieur représente, enfin lorsque monsieur est dans de bonnes dispositions, le tatouage représente d'un côté la cueillette des olives en Basse-Provence, ah. Et de l'autre un épisode de la prise de la Smada d'Adelkader par les troupes de Ludomal en 1843.
Ah, parfait. Et de plus?
Et c'est en couleur.
Et c'est en couleur. Bravo. Mes félicitations, monsieur, vraiment. Si, vraiment, très bien. Mes compliments, madame, mes compliments. Madame a de la lecture pour les longues soirées d'hiver, c'est parfait. Votre sérénité. Ouais. Votre sérénité, vraiment, vous avez été extraordinaire. C'est vrai, vraiment, il est vareuse. Il est unique, pardon, je me suis trompé tellement, mais ça ne fait rien. Ne reste plus qu'à envoyer des baisers à l'assistance publique, espèce de mal élevé, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas envoyer des baisers à l'assistance publique pendant que je dis bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs.
Voilà, c'est donc Francis Blanc et Pierre Dac dans un sketch absolument inoubliable. Moi j'aime bien ça, la compagnie créole. Qu'est-ce que vous en pensez? On essaye? Et allez, c'est parti, ça mélange.
Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter. Vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan. Un jardin merveilleux, un spectacle permanent.
C'est comme dans l'air,
comme dans l'air,
comme dans l'air,
comme dans l'air, comme dans l'air. Tableau du douanier Rousseau.
Il y a des perroquets qui voient du lait de coco.
Comme dans l'air, tableau du douanier Rousseau.
Il y a des poissons tropicaux,
plein de piquants sur le dos.
Compagnie créole, toujours en pleine forme, et c'est vrai que ça met de la lumière, de la musique et du soleil un peu de tous les côtés. Alors on va repartir maintenant, on va retrouver l'ami Sacha pour son émission cinéma.
Sorti le vitriol.
Pourquoi vous dites ça?
Il a pourtant l'air honnête.
Sans être franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires.
Allez.
Il faut reconnaître. C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein?
J'ai connu une Polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut
quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
Voilà, toujours évidemment cette présentation de la séquence cinéma avec la séquence extraordinairement extraordinaire de la cuisine dans Les Tontons Flingueurs avec des voix que vous avez reconnues bien sûr, de Bernard Blier à Francis Blanche en passant par Lino Ventura, Robert Dalban, etc. Voilà, donc Sacha, pour le cinéma.
Le deuxième film dont tu vas nous parler maintenant, qui s'appelle
L'étau.
Oula.
L'étau de Kirill Serebrennikov.
Alors, je vais pas faire de jeu de mots en disant que c'est un nom de bien de chez nous, parce que...
comme son nom l'indique, effectivement, notre cher ami vient de Russie.
Voilà.
Il était en compétition à Cannes, j'y étais venu vite fait le mois dernier. Mm-hmm. Bon, alors, petit point sur Kirill Serebrennikov. Bah, alors lui, son film était en compétition à Cannes, mais lui, non. Voilà, parce que depuis...
Il est pas venu, en fait.
Non, il est assigné à résidence, en fait.
Ah, d'accord.
Il est assigné à résidence, il a même fait le montage, pour une histoire de possible corruption, détournement de fonds. Donc, il a été assigné à résidence, il y a eu des protestations, mais l'État russe n'a pas voulu le laisser sortir pour présenter son film. Alors, de quoi ça parle? Et j'ai dit... Oui, c'est ça, c'est Kirill. Non, parce que j'avais écrit Sergueï. Ah là là, bref.
Ah.
À des fois, on se laisse aller, on c'était se dit clair, forcément, hein. C'est un Russe, donc il s'appelle Sergueï ou bien Vlad. Bref. Alors, l'étau ou l'été en français, mais voilà, je préfère garder le terme original. C'est intéressant dans le sens où, justement, Sam, toi qui aimes beaucoup la musique des années 60-70, et toute, en fait, la vague de culture, de contre-culture qui a émergé à cette époque-là, c'est surtout les années 60, justement. Eh ben, l'étau, en fait, c'est la même chose. C'est l'émergence de la contre-culture, de la culture rock, underground, mais en URSS. Et plus particulièrement à Leningrad. Alors tu dirais que c'est quand que ça a vraiment la contre-culture russe?
Certainement peut-être à l'époque de comment il s'appelle, celui qui picolait là, non?
De Elstine? Non, quand même pas.
Non,
c'était encore l'URSS.
Ah oui, d'accord. Ah oui, donc au moment de la Russie, donc la perestroïka.
Non, même pas, justement.
Ah bon?
Eh oui. Justement, la contre-culture a émergé avant, dans les années 80. Et c'est déjà très intéressant de voir comment le film est fait, qu'on voit la représentation. Alors, c'est en noir et blanc, c'est dans un noir et blanc absolument magnifique. On commence, ils nous disent, on est à Leningrad, tout ça. On suit des jeunes filles qui passent par l'entrée des artistes, ou plutôt par les toilettes, pour pouvoir gruger et assister à un concert du groupe Zoo Park. On est dans les années 80. Elle passe par... voilà, donc il y a des mecs, des rockers dans les toilettes, tout ça. Ok, bon, bah on est dans un truc de rock typique.
Ouais, c'est clair.
Et puis là, elles arrivent dans la salle de concert, et là, alors il y a de la musique sympa, mais le groupe, ils sont plutôt tranquilles, un peu comme Eric Clapton en règle générale.
Ah.
Plutôt tranquilles sur scène.
On écoutait du Clapton.
Et tout... les spectateurs sont assis sans bouger, avec des gars, des gardes, des gens, des apparatchiks qui regardent tout ce qui se passe et puis qui engueulent une nana parce qu'elle sort une pancarte avec un cœur écrit dessus, dessiné dessus. Ah. Et là, on fait, effectivement, on aide. Il y a cette culture rock,
mais
on comprend très vite le contexte en fait dans lequel on va être et c'est en fait une ode à la liberté. Juste après, il y a justement des gars qui viennent les personnages principaux, Mike Naumenko, qui est donc le créateur du groupe Zoo Park, et de l'autre,
ce groupe existe en fait.
Il y en a deux en fait.
Ah ouais, d'accord.
Il y en a deux dans le film, c'est en fait les deux grands initiateurs de cette vague de rock underground.
D'accord.
Et Victor Tsoï. Alors on a Tsoï justement avec son pote qui sont avec une guitare et ils vont rejoindre au bord de la mer Baltique, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est au bord de la mer Baltique, puisqu'on est sur les environs de Leningrad.
D'accord.
Ils vont les rejoindre au bord de la mer, autour d'un feu, et ils jouent de la guitare, fument leur clope, picolent un petit peu avec un punk, et on a l'impression de voir justement un documentaire sur les années 60.
D'accord.
Aux États-Unis. Mais là, on est dans les années 80, il y a un retard, forcément, parce que années 60, on était dans la pure guerre froide, on était dans la crise des missiles, le super armement. Donc, on voit que non seulement il y a cette contre-culture qui émerge quoi qu'il arrive, et ça annonce en fait le début du délitement de l'URSS, parce que une dizaine d'années plus tard, c'est la glasnost et la perestroïka. Et il y avait déjà en fait ce désir de liberté, et on le voit dans ce film, où là, effectivement, c'est l'émergence de deux groupes de rock. Alors, dans les personnages, il y a justement Mike Naumenko. Donc, lui, c'est la première star. C'était pas celui qui était le plus doué, le plus talentueux, mais c'était le plus passionné. C'est celui, en fait, qui a décidé de faire le club de rock de Leningrad en, justement, trouvant les moyens de faire croire que c'est quand même un chant prolétaire d'une certaine manière de faire du rock. Enfin, voilà. Il trouve des détournements pour faire croire que justement ça va bien avec le parti, donc les apparatchiks sont contents. C'est le type qui fait des traductions, des traductions de l'anglais vers le russe, des différents textes, des vinyles qu'il arrive à acheter sous le manteau. Et on voit vraiment que avant de s'intéresser à l'histoire des deux groupes de rock, c'est en fait l'histoire de cette contre-culture qui émerge vraiment, avec tous ces Russes certains qui font des reproductions d'affiches de groupes, parce que voilà, on pouvait pas en trouver sur le marché. Donc ceux qui avaient une qualité de dessin, eh ben ils reproduisaient l'affiche et ils les vendaient, voilà, pour quelques roubles. Il y a toutes ces petites manières en fait de pouvoir avoir une sensation de liberté que nous, voilà, bon, en Occident, c'est vrai que ça a été un peu plus gros. Un peu plus visible, tandis que eux, c'était sur les petites choses qui avaient un petit peu cette recherche de la liberté. Alors voilà, ça c'est vraiment Mike Naumenko, où on le voit avec affiché sur le mur tous les vinyles du Bowie, les Who, les Beatles, justement tous ces groupes-là. Oui, et même, et alors là, au-delà, donc le deuxième personnage c'est Victor Tsoï, qui lui c'est vraiment devenu la grande star et l'image du rock underground de Leningrad, qui a fait le groupe Kino derrière, dont en fait l'un des morceaux les plus connus, c'est Leto, justement. Ça parle de Tsoï. Alors, dernière chose, peut-être petit point quand même sur la mise en scène, parce que c'est quand même aussi ce qu'il y a d'intéressant.
C'est important, oui.
C'est qu'il y a plusieurs moments où ils sont, ils ont en fait un petit peu une galère, voilà, ou un moment un petit peu difficile, où on sent qu'ils sont retenus à cause de l'oppression sociale de l'URSS, enfin voilà, de l'oppression générale qu'il y avait. Et en fait, on entre dans des scènes complètement folles, pratiquement de clips vidéo plus que de comédie musicale, où en fait, ils chantent à leur manière, tout ce qui est dans le cadre participe à des chansons, et c'est des reprises, alors Lou Reed, Iggy Pop, Talking Heads. Donc là, vraiment, on est dans cette espèce de rock qui était irrévérencieux, complètement fou. Et même à l'image, c'est comme à l'image, on a des recoloriages des choses, on a des écritures qui apparaissent, mais comme si ça avait été comme si la pellicule avait été grattée en fait.
Gratté, ouais.
Voilà, bouffée, grattée. Justement, il y a ce côté un petit peu punk qui sort. Et en fait, il y a un personnage qui apparaît puis qui dit à chaque fois non, mais ça n'a jamais existé. Mais c'est pour dire voilà quel est le désir d'évasion de tous ces personnages. Le désir, voilà, ce désir de liberté, d'une certaine manière, qui se fait par la création, qui se fait par l'imagination, parce qu'ils peuvent pas le faire de manière concrète.
Voilà, donc de belles images, de la belle musique, un film que tu recommandes.
Oui, un film qui est revenu, qui est revenu bredouille de Cannes, et c'est une erreur. Non, ça a eu le Cannes Soundtrack, meilleure musique, mais c'est tout, c'est une honte.
Le mot est lâché.
Voilà, mais okay. pour ceux qui ont un certain amour de la musique.
Cinéphile, en tout cas, et musique.
Oui, que ce soit cinéphile ou justement mélomane, franchement, allez-y sans hésiter. L'étau de Kirill Serebrennikov, c'est vraiment de la qualité.
Merci infiniment, Sacha. Merci. Une fois de plus, tes explications sont claires, nettes et précises, et ça donne envie d'aller au cinéma.
Voilà, donc allez voir ce film Leto, s'il passe près de chez vous, ou bien peut-être vous le trouvez dans des systèmes un petit peu de location de films. Enfin bon, bref, tout ça existe. Merci Sacha. On repart maintenant de l'autre côté de l'Atlantique et on va retrouver deux chanteurs que j'apprécie particulièrement. Une dame qui s'appelle s'appelle. Ah,
écoute-moi ça, ça.
Sheryl Crow.
Sheryl Crow.
Et
c'est un morceau extraordinaire que je trouve.
Me and my Bobby McGee,
qui a été repris par pas mal de gens. Et oui, là, oui, c'est le créateur de la chanson qui chante avec Sheryl Crow.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Kris Kristofferson qui chante en duo avec Sheryl Crow. Chanson qui a été reprise, on en parlera peut-être après. De nombreuses fois, en tout cas par Janis Joplin.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a dream. Now his feeling is fading as my jeans. All the thumb to diesel down just before it rained. And I wrote a song and made to New Orleans.
Cette chanson qui a été immortalisée par Janis Joplin, c'est vrai que Kris Kristofferson, le gars qui l'a composée, Elle n'était pas tellement connue, et le jour où, Janis Joplin a, pris en main cette chanson, eh bien, c'est devenu un, succès mondial. Je dois dire qu'elle l'a enregistrée 3 jours ou 4 jours avant sa mort. Notez que Janis Joplin est morte d'une overdose. Bon, enfin, c'est, la, princesse des hippies. Moi, j'aime beaucoup sa voix. C'est une voix très, très particulière, un peu, criante, hein. Mais voilà, donc une, magnifique chanson, Me and My Bobby McGee, qui raconte finalement le, road movie. Ah pardon, excuse-moi, je t'ai pas monté ton micro, voilà, il commençait à râler, Sacha.
Donc, non, bah, c'est justement partie du Club des 27.
C'est-à-dire ?
Le fameux Club des 27, dans la culture populaire, c'est que tu as plusieurs artistes, rock, pop, voilà, qui, sont morts à 27 ans.
Ah d'accord.
Et qui étaient de sacrés morceaux. Bah regarde, déjà, t'as les 3 J. Jim Morrison, Jimi Hendrix... et Janis Joplin.
Ils sont morts à 27 ans.
Et ils sont morts à 27 ans. À ça, il y avait même Robert Johnson, le chanteur de blues,
d'accord,
je crois.
Ouais.
Celui qui a, fait Crossroads.
D'accord.
Et tu as justement 2 autres qui se sont ajoutés à cela, mais donc plus tard. Années 90, Kurt Cobain, donc le chanteur de Nirvana, et Amy Winehouse dernièrement.
D'accord. Oh, on perd jamais donc, une occasion de se cultiver.
Donc c'est vraiment toute la, grosse légende. Le Club des 27, voilà, c'est... rockstar, rockstar morte avant d'avoir atteint 30 ans.
Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que bon, bah, je dois reconnaître que... Bon,
je serai pas rockstar, du coup.
Non,
ça y est, c'est trop
c'est
tard.
Foutu, foutu. moi, j'aime beaucoup la voix de Cheryl Crow. Je trouve que cette nana a une... Bon, d'abord, je vais essayer de vous retrouver une chanson. Je sais pas ce que j'en ai mis. J'ai mis ça dans un coin de, l'ordinateur. Où ils font une chanson sur, 2 accords. Et c'est là où on se rend compte de l'orchestration et du travail fait par un groupe, quoi. Quand t'as 10, 15 musiciens qui, balancent une chanson sur 2 accords, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà, sur 2 accords, c'est pas sur 2 accords que l'on va chanter Mamselle Angèle. Ah ben ça y est, vous le retrouvez. Eh ben oui, hein, toutes les semaines, décidément, on vous la met, Mamselle
voilà,
Angèle.
Et puis, depuis le début juin, l'émission du Mazen, nous avons décidé de rendre hommage, comme je vous l'ai dit à l'époque, à Jacques Martin, en chantant Mademoiselle Angèle. Et donc, nous retrouvons ce morceau de bravoure. Je pense qu'il n'y a pas d'autre définition que d'arriver à dire ce morceau de bravoure en ce qui concerne cette chanson.
Avec la bande-son de Mamselle Angèle... Allez, accrochez-vous.
Frappe au numéro 1, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier. Allez voir à côté.
Ça va beaucoup mieux.
Je frappe au numéro 2, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
Peut-être parce qu'on n'a pas le retour pour penser qu'on fait mieux.
Ouais. Je frappe au numéro 3, je demande Mademoiselle Angèle, la concierge me répond. Mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de flanelle. Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des bonnets de coton. Ah ah ah, je ne connais pas ce genre de métier, allez voir à côté.
La qualité musicale, c'est...
Ah oui, non, c'est extraordinaire.
C'est, hein. C'est lui recherché.
Gershwin, voilà, on a, c'est vrai, une qualité musicale absolument exceptionnelle. Notre bande-son est parfaite. Quant à nos voix, ben, à vous de juger, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous voulez, quand on a des voix comme ça... On n'a qu'à aller à la Scala de Milan et, c'est bon. Hein. Voilà, je vous propose un petit moment rigolo.
La neutralisation.
Qui s'appelle François Sylvan.
Jean-Renard.
Être ou ne pas être, là n'est pas la question. Avoir ou ne pas avoir, là est le pognon. Ne pas avoir d'avoir, être un être sans pognon, là est la question. Pour un Suisse. Mais alors, pour être Suisse, me direz-vous. Alors, pour être Suisse, c'est une autre histoire que je vais vous raconter avec une séance devant une commission de naturalisation. Bon, eh bien, je crois que... on peut rouvrir une bouteille. Greffier, faites entrer le candidat suivant.
Monsieur de Souza, dit Santos, Jésus.
Monsieur de Souza, dit Santos, Jésus. Vous êtes ressortissant portugais. Vous avez épousé une Suissesse, mademoiselle Maria Teresa Sanchez. Vous avez émis le vœu de souhaiter, espérer devenir citoyen de la Confédération Suisse. Alors cette commission... Oui, il va bien. Il va bien, il a de la culotte, du tanin, il faut être au pas. Alors cette commission ici présente est réunie en assemblée pour poser quelques questions... non seulement d'instruction civique, merci, mais aussi des questions historiques, passe-moi voir les flûtes, et religieuses, à votre santé. D'abord, monsieur de Souza, dit Santos, Jésus, qu'est-ce qui vous a poussé à demander cette naturalisation? Percevoir, Marcel? Avant de répondre à cette question, je vous rendrai attentif. Merci de prendre note que vous n'êtes pas le seul. Aussi, je vous demanderai d'être bref. Car je ne vous cacherai pas, monsieur... monsieur de Souza, dit Santos, Jésus, que le temps qui nous est imparti nous est non seulement précieux, mais également compté. Bof, que je préfère la Suisse à la Portugal, parce que j'aime bien les lacs de Genève, Montrou, Bébé, le Castelcillon, que j'aime bien Lausanne aussi, que parce que la toute France, pour qu'elle la fasse à pêcher. Oui, nous constatons, monsieur de Souza, dit Santos Jésus, que notre langue n'a pratiquement plus de secret pour vous. Et que mon verre est vide. Aussi, je pense que la commission sera d'accord avec moi, hein? Ouais, pour ouvrir une bouteille. On va pas vous embêter plus longtemps, monsieur Di Souza, Di Santos, Jésus. Hein? Oui, de Souza, oui. Eh ben, j'ai dit quoi? J'ai dit dit. Enfin, Marcel, j'ai pas dit dit. Il dit que j'ai dit dit. Qu'est-ce que je dis? Oui, bon, ben j'ai dit. Excusez-moi, monsieur de Souza, dit Santos. Si j'ai dit au lieu de deux, ma question sera la prochaine. Ma question sera la suivante. Chantez-nous l'hymne national suisse. Et soyez bref. Je ne vous cacherai pas que le temps qui nous est importé est également compté et précis. Précis et compté. Compté. Il
est compté. Sur les collines, Candelet-sous-les, il annonçait une brillante rébelle. Et président
Je crois qu'il se lève le soleil, mais je sais pas sous les collines qu'elle est. Oui, alors vous comprendrez, monsieur Dasula Tsuyas, que nous allons être obligés de poser une question subsidiaire pour vous santé, oui, pour vous départager, pour vous faire une santé. Soyez bref, hein, car vous ne cacherez pas que le temps qui est importé est important. Alors, monsieur Dessoutas, citez-moi, citez-moi, quelle ville abrite le jet d'eau de Genève? Mais soyez bref, hein, car je vous cacherai pas le saucisson. Saucisson, oui. Oui, alors, vous comprendrez, monsieur de saucisson. Monsieur de sous-tasse, comprenez. Comprenez que si vous prenez la tasse, alors là, alors c'est un souci pour le... pour la sous-tasse. Ben oui, quand t'as plus la tasse, la sous-tasse, elle s'emmerde. Elle est saucisson. Elle est saucisson. Elle est souci. Sauf pour vous de vous représenter dans 3 ans. Et soyez bref. Car comme vous le sentiez, le temps qui nous est compté vous êtes imparti. Et alors ça, c'est radical.
Voilà, François Sylvan, toujours dans ses... C'est un grand artiste, malheureusement, trop tôt disparu, mais qui a une vision très particulière de la Suisse, et en tout cas de la, du canton de Vaud. Voilà, je vous en repasserai d'autres. Oui, il y en a des pas mal, notamment sur ce qu'il appelle les témoins de Genova. C'est pas mal non plus. Allez, on va s'écouter encore avec Sacha. 2-3 petites discussions.
Là,
sujet de... Bah, vous allez voir.
Qui était un compositeur absolument extraordinaire. Alors, je lis rien du tout, c'est toute tête, hein, je tiens à le dire. Alors, si je me plante, n'hésitez pas à me le dire. Donc, Anton Professe, qui était, ben, ça, je suis sûr que tout le monde connaît, qui a fait la musique de toute la série des Sissi.
Ouais.
Anton Professe, qui était le... Mais les vrais Sissi, hein, pas ceux qu'on a maintenant, hein, je dirais les Sissi avec Romy Schneider, et que, bon, je regarde
pour avec un immense plaisir. C'est de cela dont on se souvient, hein, le reste.
Qu'est-ce que ça a donné, les nouveaux Sissi, ça, au niveau cinéma
Bah, j'en ai pas entendu parler, donc je pense que ouais. Ça a pas non plus cassé 3 pattes à un canard. Hein.
D'accord, ok. Tant pis pour les canards. Qu'est-ce que tu penses des Sissi, Eric?
C'est pas ma tasse de thé.
C'est vrai? Ah non. Bon, c'est pas ça. Non. Ah non. Ce grand romantisme austro-hongrois et...
Non, non, je suis très fleur bleue, mais c'est pas du tout les films que j'aime regarder.
Ah ouais.
Ah ben des fois quand même, c'est vrai que c'est un petit peu, comment dire, c'est un poil gnangnan des fois.
Ah oui,
quand
c'est
même.
Gnangnan, c'est clair. Bah, surtout la doublure de Romy Schneider, je trouve c'est
non, bah, très ça, bon. Ça la rend cruche, quoi.
Ouais, c'est
vrai
sûr.
Que.
Ouais.
Mais bon, je sais pas si en allemand c'est d'autant plus agréable aux oreilles, mais effectivement c'est. Mais bon, ça a quand même révélé, voilà, une immense actrice, et puis un très bon acteur, hein, Carl Bohn. Oui. C'est vrai que.
Qu'est-ce qu'il a joué d'autre chose après?
Alors, moi je l'ai vu dans un autre truc, mais c'est quand même un film assez immense, c'est Le Voyeur, Peeping Tom, de Michael Powell, un autre réalisateur qu'on a complètement zappé, mais qui était un de ses grands réalisateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a fait notamment des films, ben, les productions Archer avec son collègue Emmerich Pressburger. Il y a d'ailleurs un de leurs films qui a été interdit par Churchill pendant un moment, tellement c'était satirique et il fallait pas du tout... fallait pas qu'il y ait ça durant la guerre, fallait D'accord, quand même ouais. rehausser le patriotisme. Et l'un de ses derniers films qu'il a fait tout seul, c'est Le Voyeur, où là, Carl Bohn, il fait un espèce de psychopathe réalisateur amateur qui en fait filme ses victimes. Il a en fait créé tout un truc où en fait, il a sa caméra sur lequel est accroché un miroir et il y a un espèce d'énorme pic pour justement, pourfendre ses victimes qui sont des femmes. Alors bon, c'est très freudien dans l'âme, on va dire.
D'accord.
Et l'idée, en fait, c'est de filmer la personne en train de se voir elle-même se faire embrocher.
Ah oui, donc, c'est pratique, ouais.
Ah oui, c'est très sale. Et justement, c'est intéressant de voir que ce soit lui comme Romy Schneider, les deux, les rôles qu'ils ont fait après avoir été dans un petit peu quelque chose de très gnangnan, être allé dans quelque chose d'extrêmement fort, que ce soit Schneider justement avec Zulawski par exemple, où là elle est allée dans le hard,
ouais.
Et Carl Bohn de l'autre côté avec Michael D'accord. Powell. C'est assez intéressant de voir comment en fait ils ont qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour pouvoir s'arracher de cette image qu'ils avaient?
Ça a été un gros problème, en tout cas pour Romy Schneider, ouais. Quoi, parce qu'elle, pour elle, tout le monde la calait comme Sissi, quoi.
C'est ça.
Il a fallu qu'elle prouve qu'elle était capable de faire autre chose.
Qu'elle n'était pas que Sissi et qu'elle n'était pas que la nana de Delon.
D'accord. Oui, en plus, oui, il y avait ça. Ouais. Il y avait cette histoire romantique. Ouais, les dessous du cinéma, donc que Sacha connaît bien, puisque tu vas encore partir. Tu pars à Cannes encore cette année?
Alors, c'est confirmé, ouais, normalement. Cannes 2019, j'y serai.
Donc, super, on va pouvoir faire une émission spéciale.
Un joli compte
rendu. Ok, alors, on continue en chanson, avec une magnifique chanson américaine sur de l'humanitaire. Et puis, il y a d'autres choses. Après, on retrouvera Sacha, Le Marché, De Vernou en Vivarais, et toutes ces sortes de choses. Je vous laisse avec cette magnifique chanson qui va démarrer dans quelques instants. La voilà.
Ouais, c'est intemporel ce truc quand même. C'est assez extraordinaire.
Ouais, très bon morceau. Bah, c'est vrai que j'ai quand même une certaine affection pour la pop rock des années 80. Donc c'est vrai que là, il y a quand même un certain nombre de personnalités, bah, que ce soit Huey Lewis ou Steve Perry, qui sont pas forcément ceux qu'on reconnaît le plus ou qu'on connaîtrait le plus. Mais là, c'est vrai que c'est il y avait quand même de sacrés morceaux. Ils ont essayé d'en refaire un pour Haïti, mais enfin, on voit quand même qu'il y a eu un écart qui s'est creusé.
Hein, USA for Africa, hein, en fait, ouais. le thème du truc. Donc, ils ont récolté quand même pas mal de pognon pour envoyer en Afrique.
Hein. Non, mais ça partait d'une bonne intention. Hein. Voilà, ils ont quand même fait un sacré truc. Hein.
Et puis, c'est bon, quoi. Je veux dire, on écoute ça encore, ça fait du bien. Alors, on va afficher le camp directement vers nous. Là, on part vers nous et on a la chance d'avoir avec nous Eric qui va pouvoir témoigner un petit peu de ce vers nous, cette ville un petit peu, voilà, qu'on découvre, que moi j'ai découverte grâce à lui d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a invité. Et je te remercie encore Eric de m'avoir fait rencontrer des gens assez super qu'on va entendre, hein, dans toute l'émission. Et donc, la première tournée qu'on a fait, c'est la balade dans le marché. Et le marché de vers nous, même c'était en hiver pourtant, et il y avait quand même déjà du monde et tous ces gens qui arrivent avec des produits bio, qui amènent des trucs. Il y a un gars qui, on va l'entendre, qui vend des petits arbres. Moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Enfin, bon, voilà, il y a vraiment un artisanat qui est très développé à Vernoux. Mais c'est historique, parce que la foire de Vernoux, le marché de Vernoux, c'est quelque chose de très ancien. Raconte-nous.
Ah oui, très, très ancien. J'ai retrouvé des documents de la presse de 1931. Alors, Vernoux, bon, comme tout le monde le sait, il y en a plusieurs dans la France. Et par mesure et par conscience, j'ai téléphoné à la mairie de Vernoux, une secrétaire Françoise, j'ai demandé quand même si c'était bien à cette époque-là que M. Naudon était maire, puisqu'il est précisé dans cet article que c'était ce monsieur qui était le dirigeant de Vernoux. Elle m'a confirmé, et puis j'ai en bas de cet article, il y a une petite photo qui n'est pas très nette, mais où je reconnais quand même la place. Et puis d'autres petits noms que je connais, que j'ai connus étant enfant, les établissements Javelat, la droguerie Juston, la menuiserie Fournier, la boucherie Courtial, la bijouterie Manval, etc. Donc ça m'a confirmé sur Vernoux. Et ce qui est étonnant, c'est la grande braderie de Vernoux a été le triomphe que nous avons prévu. Plus de 15 000 visiteurs.
Ah ouais, c'est impressionnant.
Alors j'en parlais encore avec un des élus ce matin pendant les vœux du maire.
Alors ce matin, il y avait les vœux du maire. Voilà. Madame le maire.
Madame le maire, Madame bon, Martine Finiels. Et cette personne me dit, mais il y a une erreur de frappe. Alors, il se trouve que sur ce document, il est mentionné à trois reprises 15 000 visiteurs. Je ne pense pas que ça soit une erreur. Nous, on a eu l'occasion d'organiser des fêtes sur Vernoux dans les années 2000, l'embrasement de l'église que beaucoup de personnes connaissent, où on avait à peu près 2000 personnes.
Ouais, quand même.
Vous vous rendez compte, en 1931. Et c'est magnifique de retrouver, c'est des documents, parce que j'adore essayer de garder des documents sous la main et de ne pas que ça ne parte pas à la déchetterie.
Ah bah, à ce sujet-là, d'ailleurs, Eric, il faut quand même dire ce que tu fais, le travail que tu fais, qui est, moi, je trouve absolument magique. C'est-à-dire que sur Internet, tu as une chaîne YouTube,
oui,
où tu passes des films, toute une série de documents, des choses de l'histoire, des choses du présent. Tu expliques des choses, et moi, j'invite les gens à aller faire un tour sur YouTube, voir ta chaîne, parce que ça vaut le coup. Alors, redonne-nous l'adresse.
Oh, c'est facile. Je m'appelle Eric, donc c'est Rico, R-I-C-O 007.
Ça peut être une liaison avec le cinéma, non,
non, 007 non, 07, parce que Rick, c'est tout simple, Rico 07 était déjà pris sur la chaîne YouTube.
Non, parce que attention, t'as un spécialiste du cinéma à côté de toi, donc tout à coup il va te faire des liens.
Il n'y a pas besoin d'être spécialiste du cinéma pour savoir ce que 007 ça veut aussi dire, à part l'Ardèche.
Et donc,
ces petits montages que je fais, c'est parce que, au fond de moi, j'ai un grand amour envers les gens, les personnes. Et les personnes âgées qui ont un savoir et qui bien souvent partent sans... Donc je te dis merci pour les émissions que tu fais. Ça permet de mémoriser ces paroles d'anciens qui nous font que nous n'oublions pas.
Attends, mais là, j'ai quand même une question à te poser, Eric. Excuse-moi, mais là, pourquoi tu viens pas plus souvent à la radio? Je veux dire, qu'est-ce que t'attends pour venir comme animateur sur Radio des Boutières? On a besoin de gens comme toi.
Oui, parce que je ne connais pas grand-chose à la radio.
Ah, mais c'est pas un problème, ça, nous, on sait. T'inquiète pas, regarde là, ça va tout seul.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, je suis assez à l'aise avec un micro.
Eh ben oui!
Je chante un petit peu pour les personnes.
Bon, alors, on t'attend sur la radio, hein.
Avec plaisir.
Ok, super. Le rendez-vous est pris.
Avec plaisir. Donc, c'est merveilleux de voir ça. J'en ai du mal à imaginer autant de monde et tous les commerçants, toutes les personnes qui ont mis à la main la pâte, puisqu'on voit qu'il y a des décors, il y a des costumes, et avec des choses simples, la verdure, ce que la nature nous donne, des fleurs, des feuilles, des choses toutes simples. Et il y avait certainement l'envie de se rencontrer, chose qu'on a perdue à l'heure actuelle. Alors, je ne veux pas être contre Internet et téléphone portable et tout, mais enfin, ça a coupé beaucoup de relationnel.
Alors, bon, c'est clair.
On est clair. Bon, l'intérêt justement d'une radio comme Radio des Boutières, c'est qu'on essaye de recréer ce lien. Et finalement, que les gens nous joignent par téléphone. À ce sujet-là, le jeu, là, ils ont pas appelé, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. Ils ont trop mangé à midi et puis ils sont en train de roupiller. Ils font la sieste.
Ils sont en train de se remettre du réveillon. Hein,
ah ben, ça doit être ça. Alors nous, on va tirer les rois tout à l'heure. Hein. Bon, voilà. Donc on le fera à votre santé d'ailleurs. On a amené un petit coup à boire aussi. En plus, c'est sympa.
Et du lait de fraise. Hein.
Oui, évidemment.
On précise.
On boit le lait de fraise avec modération.
Voilà, faut toujours manger avec modération, pas trop sucré, pas trop salé, pas trop gras, hein, voilà, et tout le tralala, c'est bon, on peut avoir notre subvention.
Ok, c'est bon, c'est parfait. Alors, pendant que j'y suis, donc, alors, mais attends, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas cette opérette, quoi, je veux dire, c'est quand même un monument de l'opérette. C'est l'opérette, the opérette, quoi, il n'y en a pas 50, hein.
Ah, mais il y en a, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est qu'une opérette.
Oh, bah si, on va leur expliquer quand même. Alors, bah,
oui,
une opérette,
non, c'est,
une opérette, c'est un truc assez fantastique. C'est un truc qui est gay, où il y a des gens qui racontent des blagues. Ah si, en général, ça se termine bien. Quoi. En général, ça se termine bien.
Non,
c'est pas comme l'opéra où ils meurent tous à la fin.
C'est juste, je crois qu'en fait, il a joué sur la polysémie du mot gay, parce que t'as dit plus
d'accord,
gay
que
gay.
Oui, d'accord. Alors, c'est marrant. Voilà. C'est marrant. Voilà,
il t'a fait des coucous. Et non, la réponse, ce n'est pas la cage aux folles.
Voilà, d'accord, mais déjà, oui, pour commencer. Donc, en fait, c'est une opérette. Une opérette, c'est marrant, ça se termine bien, ça chante, ça danse, ça parle. Moi, j'adore. Hein. Il y en a eu toute une série. Alors, il y a celle-là qui est quand même... Alors, évidemment. On dit que la première opérette en France, c'était Les Cloches de Corneville. Mmh. Celle-là, ça a été certainement une des plus grandes opérettes allemandes, autrichiennes allemandes, dont par un auteur, je vais pas donner son nom parce qu'ils vont trouver tout de suite, mais là, bon, ça se passe dans une auberge, il y a une histoire d'un animal qui est d'une certaine couleur, je peux pas en dire plus, quoi, hein.
Non, puis, voilà, oui, tout à fait. Non, puis après aussi, le terme opérette, c'est vrai que les gens les utilisent de moins en moins parce que ça a été remplacé au fur et à mesure par le terme comédie musicale,
ouais.
Qui est en fait, je le suppose, emprunté directement au terme musical, qui vient de Broadway. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est Broadway qui a vraiment en fait remis en avant ce principe un petit peu de l'opérette où ils reprennent un petit peu de tout et rien. Nous, on en a quelques-unes de comédies musicales, mais c'est vrai que par rapport à Broadway...
Oui, mais enfin quand même, quand c'est un Français qui fait un film de comédie musicale aux États-Unis, c'est quand même assez extraordinaire.
Ah non,
tu vois à quoi je pense.
Non, mais c'est même pas ça. C'est que l'une des toutes premières grandes comédies musicales à avoir reçu la Palme d'Or, c'est français, c'est Jacques Demy. Jacques Demy, c'est lui qui a vraiment...
Oui, c'est Demoiselle de Rochefort, c'est ça, non?
Non,
les
c'est...
Les Parapluies de Cherbourg.
Parapluies de Cherbourg. Et son tout premier, c'est Lola, si je
d'accord.
dis pas de bêtises.
Ah bah dis donc, il en sait, hein. Il n'y a pas de notes, hein, je tiens à le dire quand même. Alors Eric, donc reparlons-nous un peu de Vernoux et de tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'est passé. Parce que c'est quand même une ville qui a vraiment bougé dans l'histoire. Hein.
Mais oui, on le verra sur les interviews et témoignages tout à l'heure. C'est une ville qui évolue. Alors je ne peux que dire du bien de mon village.
Ah bah évidemment.
Dans ce merveilleux département qui est l'Ardèche et tous les petits villages aux alentours qui sont aussi très jolis à visiter. Vernoux, moi je le connais depuis ma naissance puisque je suis né à Vernoux. L'évolution, oui, bien sûr. Alors il n'y a pas que du bien. Il y a ce qu'on parlait, les grandes fêtes qui disparaissent malheureusement, malgré certainement la volonté de beaucoup de personnes à vouloir faire revivre cela.
D'ailleurs, on a un appel au secours des anciens présidents du comité des fêtes. Hein, on entendra ça tout à l'heure. Où ils disent, mais nous, on est prêts à donner un coup de main aux jeunes s'ils ont envie de redémarrer quelque chose. Quoi.
Ah oui, ils sont prêts à être là pour les soutenir, pour les diriger. Et ça, c'est vraiment merveilleux d'entendre des personnes comme ça qui sont prêts à donner de leur temps.
Mmh.
Ouais. Et moi, j'en profite un petit
vas-y, peu. Vas-y, 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 t'as le micro.
Demander, puisque vous avez, tu as parlé de ce lien Rico 007.
Oui.
Demander aux auditeurs qui nous écoutent si ils ont des documents, que ce soit des négatifs, des diapos, des cassettes VHS ou autres, que je suis preneur, je leur rendrai, bien sûr, pour alimenter ce lien.
Parce que donc, tu arrives à renumériser toutes ces choses-là sans aucun problème.
Avec des problèmes, mais j'y arrive.
C'est le principal. Ok. Alors, donc, on a un appel téléphonique. Pendant ce que je prends cet appel téléphonique, je vous propose La langue de chez nous. Magnifique chanson d'Yves Duteil, chantée avec Marc Lavoie.
C'est une langue belle, avec des mots superbes. Qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chêne et le pain de froment, et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux. Parfois même aux torrents qui charrient le tonnerre. Polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle, l'autre bout du monde. Une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde, enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs. Nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout pour imposer ses mots. Jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez vous. C'est une langue belle, à qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesses infinies, les mots qui vous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de mon pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contrescarpe, en écoutant chanter les gens de mon pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe. Il a composé toute une symphonie. On dirait que le vent s'est pris dans une harpe, il a composé toute une symphonie.
Ah, quelle merveille! En plus, bon, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on a d'un côté un Français, Yves Duteil, et de l'autre côté un Canadien, Marc Dutoit. Non, comme j'ai dit. Marc Lavoie, pardon, où j'habite, et que effectivement, c'est le lien de la langue française entre la France et le Québec.
Ouais.
Ah oui, moi j'adore cette chanson. Alors, à deux voix, c'est mal.
Vous, je vous connais, je vous ai toujours vu au marché du Chambon.
Oui, mais je suis un peu sur d'autres marchés, oui. J'ai pas que le Chambon, non.
Je pense bien, hein, vous faites tous les marchés, en fait.
Oui, je suis là. Aujourd'hui, je suis à Vernon, voilà.
Vous avez votre pipe ?
Non, alors, la pipe, ça fait au moins 20 ans que je la fume plus.
Ah non.
Vous avez de la mémoire, hein, ça. Oui.
C'est vous dont vous êtes là, c'est ça ?
Oui.
D'accord. Alors, en fait, vous vendez des paniers, vous proposez pas mal de choses en bois. Donc, vous êtes un artisan du bois.
Non, mais moi, je suis pas un artisan, moi. Je suis un commerçant, moi. J'achète et je vends, moi.
D'accord. Vous fabriquez rien ?
J'ai fabriqué deux, trois choses, mais maintenant, je suis plutôt commerçant. Et chacun son métier. Hein.
Non, mais parce qu'à une époque, vous fabriquiez.
Oui, je faisais de la ferronnerie, surtout, oui. Ferronnerie, du bois, du cuir, j'ai fait un peu tout. Et puis maintenant, je suis dans une autre passe. Mais il n'y a pas de souci pour moi, hein. Je change. Je reviendrai peut-être à l'artisanat, hein, mais...
Pourquoi pas ?
Voilà, oui.
Alors finalement, cette vie des marchés, c'est une vie, bon, vous la faites depuis quand même un certain nombre d'années, pour pas dire un nombre certain. c'est passionnant, c'est quelque chose qui est une passion, ben, un métier évidemment, mais aussi une passion, parce qu'il faut se lever tôt, il faut se balader dans le froid, etc.
Non, mais pour moi, c'est absolument une passion, hein, puisque je suis largement à l'âge de la retraite, mais voilà, moi, j'aime pas faire le jardin, j'aime pas le bistrot, j'aime pas les cartes, et par contre, sur les marchés, là, non, on s'éclate, on a des discussions, et on tombe sur des gens comme vous, là, c'est le hasard complet, hein. Je sais pas ce que vous faites, d'ailleurs, vous êtes pour qui, là?
Alors, je suis pour Radio Desboutières, voilà. Et donc, je fais une émission qui va passer le 19 janvier sur Vernou, et donc, je vais interviewer des gens de Vernou, bien sûr, mais je fais toujours le tour des marché quand je fais un village, oui. Et j'interviewe les gens, on discute comme ça bâton rompu, oui. Et je trouve que c'est pas mal parce que finalement c'est le cœur des villages aussi, le marché.
Ah, c'est la vraie vie, hein. Malheureusement, on paiera cher les grandes surfaces, hein, parce que la vraie vie, c'était les rues, c'était les petits commerçants, c'était les maisons de la presse, c'est tout un ensemble. La vie rurale, c'est tout un ensemble. Les marchés, ça résiste un tout petit peu, mais ça devient difficile, hein. Voilà. Faut reconnaître que les grandes surfaces, il y a la facilité pour se garer, c'est pas toujours une question de prix. Mais je dis qu'au niveau humain, au niveau de l'accueil, rien ne remplacera un visage humain.
Hein. C'est une évidence. Hein. Et puis, finalement, des produits qu'on trouve peut-être pas forcément dans les supermarchés.
Oui, de ce côté-là, les marchés, c'est bien arrangé, parce que pour pouvoir résister, on est obligé d'avoir des produits qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, malgré tout, il y a le conseil. Il y a toujours le conseil sur le marché. Vous connaissez votre commerçant. S'il ne savait pas, vous pourrez changer la semaine suivante. Voilà, on n'a pas envie d'escroquer les gens, puisqu'on sait qu'on va les revoir la semaine suivante. Donc, il y a une question de mentalité, c'est vrai, mais c'est surtout le suivi, l'amitié entre les gens, oui.
Finalement, c'est dans le principe du marché, c'est les marchands, excusez-moi du terme, mais enfin c'est ça, qui vont vers les consommateurs. Alors que dans le problème des grandes surfaces, c'est les consommateurs qui vont vers la grande surface.
Oui, justement, mais c'est un des problèmes, c'est l'automobile, c'est le parking. Les grandes surfaces ont bien compris que nos parkings, nos business. Donc, autrefois, il y avait le marché ou la foire une fois par an ou une fois par semaine. Donc, les gens arrivaient à garder leurs achats, à réserver leurs achats pour ce jour-là. Maintenant, de la marchandise, il y en a partout. Internet, les grandes surfaces, les marchés, la marchandise, on en trouve. Ce qui fait que maintenant, nous, pour résister, il faut qu'on propose autre chose, des produits qu'on ne trouve pas, des produits de qualité, des produits rares, et des produits bio, les petits producteurs s'y remettent beaucoup. Donc ce côté-là, on a une carte à jouer.
Oui, là finalement, vous êtes dans un créneau très étroit, mais un créneau qui fonctionne.
Niche, on appelle ça une niche, voilà.
C'est une niche.
Voilà. Une niche où on a froid quelquefois, mais bon, voilà, c'est une niche, oui.
Ça sera le mot de la fin, je vous remercie, et puis à bientôt.
Avec plaisir, au revoir.
Merci, au revoir. Alors là, je m'avance dans la grande rue de Vernou. Alors ce qui est impressionnant, c'est le clocher de l'église qui, je crois, monte à quelques 50 mètres. Et c'est vrai qu'on la voit de loin, cette église. Et bon, peut-être qu'on pourra aller la visiter, je sais pas. En tout cas, on en parlera avec les personnes qu'on interviewera. Voilà, là je suis devant un stand de miel. Bonjour. Vous êtes donc apiculteur ?
Non. Je suis associé à un apiculteur dont je revends le miel, dont nous revendons le miel.
D'accord, donc en fait c'est quand même dans l'apiculture. Alors, j'ai juste une question. peut-être un peu technique, mais comme vous êtes associé à un apiculteur, vous allez certainement pouvoir me répondre. Le problème actuel des abeilles n'est-il pas de trouver quelque part suffisamment de fleurs pour pouvoir créer le pollen, le miel, etc.
C'est pas le problème de trouver des fleurs, c'est de trouver des fleurs qui sont pas maltraitées par les pesticides, surtout.
Donc il y a réellement un problème quand même avec les abeilles.
Ah ben, il y a réellement, on le connaît en France, hein, il y a un gros problème avec la survie des abeilles et des ruches. Voilà, mais il faudrait poser la question à quelques apiculteurs qui s'y connaissent beaucoup mieux que nous, quoi.
Oui, enfin, vous fréquentez les apiculteurs, donc vous savez quand même de quoi vous parlez, je pense.
Oui. Oui, bon, le problème, il est connu du ministre de l'Agriculture, qui défend les agriculteurs, mais qui ne reconnaît pas l'influence néfaste des pesticides sur les fleurs, sur toute la végétation fréquentée par les abeilles.
Et on dit que si les abeilles meurent, l'être humain mourra aussi.
Eh oui, vous référez à un livre qui existe toujours, Le meilleur des mondes, d'Aldous Huxley, et vous verrez que s'il y a plus d'abeilles, on devrait disparaître. Mais je pense qu'il y a certains ministres et certains élus qui n'en ont pas encore conscience. Les essais ont été faits, ça a été prouvé dans beaucoup de pays. On est actuellement, je crois, le pays qui consomme le plus de pesticides au monde. Malheureusement, on ne reconnaît pas l'influence néfaste des pesticides sur la flore et en particulier sur les abeilles.
Alors je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas professionnel apiculteur, vous en sortez pas mal. En tout cas, je vous remercie. Alors je continue ma petite balade. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
En fait, c'est intéressant ce que vous faites, mais je sais pas ce que c'est. Alors vous allez me l'expliquer.
Ah, alors c'est des bonnets et des tours de cou. Vous voyez, j'en ai un là sur moi.
Ah oui, d'accord, en fait, ok.
Je les fabrique, j'ai la machine qui est là. C'est un tricotin manuel, quoi, en fait. Et je les fabrique sur le marché.
Carrément, c'est-à-dire on dit voilà, je veux telle laine, telle laine, telle laine, et vous y allez.
Oui. En fait, je laisse le choix après. C'est vrai qu'au niveau choix, j'ai beaucoup de laine, alors trop de choix après, c'est pas facile, quoi, mais bon.
Alors quel type de laine vous utilisez ?
Un peu tout, pas trop de laine dedans, 20-30% maximum.
Parce qu'autrement ça gratte ?
Ouais, c'est ça, exactement. Et sinon, après c'est du synthétique, voilà, classique, quoi.
Alors, je vous écoute parler, j'ai pas vraiment l'impression que vous ayez l'accent de Vernoux. Est-ce que je me trompe ?
Non, je suis normand, en fait.
Alors, je vois que vous faites d'autres choses, vous faites des bijoux. Alors, expliquez-moi un petit peu ces bijoux. Quelle est l'idée de ces bijoux ? Parce que moi, j'en ai vu ailleurs, hein, des bijoux comme ça, mais pas ici.
Plutôt vers ça, là, puisque ça, c'est vraiment artisanal. Ça, c'est des petits origamis. Là, c'est les gros origamis, vous voyez. C'est des bandes de papier cadeau. Du bolduc, ça s'appelle, qui sont pliés en étoiles, c'est un origami chinois, quoi, en fait. On voit la bande.
C'est vous qui le faites ?
Ouais, c'est moi qui fais, ouais. Je pourrais même vous montrer si vous voulez. Ceux-là aussi, ils sont tout petits, ceux-là.
Attendez, mais vous faites ça comment ? Parce que ça doit prendre un temps fou, non ?
Non, je peux vous montrer si vous voulez voir.
C'est-à-dire, bon, comme c'est pas la télévision, l'important. Non, mais je me pose ces questions, parce que souvent c'est très joli, et vous faites ça en boucle d'oreille.
Le principe, c'est un nœud, en fait. On prend une bande, on fait un nœud, on le plie, on l'aplatit. Ça fait ce qu'on appelle un pentagone, c'est-à-dire 5 côtés égaux. Après, on tourne autour avec le ruban, on le bloque. Et après, en fait, ça fait quelque chose de plat, et on vient le gonfler sur les côtés du pentagone, quoi.
Des étoiles, des branches d'étoiles.
Voilà, donc en fait, quand on le plie, ça vient le gonfler des deux côtés, là. C'est vraiment technique, hein, comme truc.
Ah oui, là, il faut le faire, hein, ouais. Non, c'est incroyable.
Ah ben, j'en fais beaucoup, vous savez, c'est mon produit principal, celui-là.
Ah d'accord, en fait. En fait, l'idée, c'est quand même une conception, quoi. Vraiment, il y a une création chez vous.
Oui, je suis créateur, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est comme les bracelets, c'est pareil. Bon, il y a pas, c'est pas extraordinaire, mais c'est de la création, quoi.
Vous avez fait des études pour être créateur ?
Non, du tout. J'ai fait des études d'électronique. Je suis électronicien, quoi, à la base.
Alors, vous préférez être électronicien ou artisan ?
Je préfère être artisan, il n'y a pas photo. Disons que électronicien, en fait, le souci, c'est qu'au niveau travail, ça ne me correspondait pas, quoi. C'était trop de travail industriel répété à la chaîne. J'exploitais pas mes compétences, quoi, en fait.
Ouais, hein. Parce que vous êtes un artiste.
Quelque part, ouais. Ouais.
Merci, hein. Merci. Au revoir. Producteur à Saint-Jean-Chambre, bonjour. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous vendez, en fait. Vous avez une accréditation AB.
Tout à fait.
Alors, il y a des gens qui font de l'agriculture raisonnée, des gens qui font du biologique, des gens qui font du naturel. On est un petit peu perdu là-dedans. Vous avez une explication, vous allez peut-être pouvoir nous éclairer.
La certification biologique sert surtout à assurer aux consommateurs le respect du cahier des charges, qui est surtout défini par l'absence de traitement ou d'engrais minéraux. Quelques-uns sont autorisés. Et certains producteurs ne partagent pas cette mentalité de la certification par l'absence. Ils préfèrent des certifications plus valorisantes pour leurs produits, qui indiquent une pratique précise. Je pense que ça explique la diversité des certifications qui existent et des logos biocohérence, nature et progrès. De même, l'agriculture raisonnée, dans certains cas, les agriculteurs conventionnels peuvent être généralement opposés au traitement, mais face au risque de perdre une culture intégrale, peuvent choisir de pratiquer un traitement.
Donc en fait, il y a certains traitements qui sont autorisés malgré que vous ayez la certification à agriculture biologique.
Tout à fait, il existe des traitements autorisés en bio pour différents problèmes. Il ne s'agit donc généralement pas de molécules de synthèse, mais il existe des bactéries, des enzymes.
Mais là, on reste dans quelque chose de naturel, en fait.
Oui, même si leurs effets sur l'être humain ne sont pas forcément à négliger. Certains stimulateurs de défense des plantes, par exemple, peuvent également agir sur le système immunitaire humain et donc provoquer des inflammations. On a donc à respecter, malgré tout, des délais avant récolte, de façon à respecter la sécurité du consommateur.
Alors, ce qu'on dirait au consommateur, finalement, même si on a bu votre café, parce qu'après il va être froid, donc même si on a une certification AB sur le produit qu'il achète, il doit quand même les laver.
C'est mieux, il peut y avoir eu des traitements antifongiques à base de cuivre, par exemple. On voit souvent des taches bleues dans ce cas-là, où il vaut effectivement mieux laver le produit.
Alors, il y a une dernière question qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas l'impression que vous ayez l'accent de l'Ardèche. Est-ce que je me trompe?
Pas du tout.
Vous venez de quelle région?
Je suis originaire de banlieue parisienne, et j'ai passé pas mal de temps en Alsace avant de m'installer ici.
Et en fait, c'est quoi? C'est un retour à la nature? C'est un ras-le-bol de la ville qui vous a ramené ici?
Un peu tout ça à la fois. Je faisais de la biologie végétale avant et j'ai en fait été assez déçu au cours de mes études de l'importance des biotechnologies de nos jours dans les cursus. On étudie dans le fond assez peu l'organisme dans son ensemble et beaucoup plus de biologie cellulaire ou moléculaire, qui sont des outils très intéressants mais qui ne correspondaient pas du tout à ce qui m'intéressait. Je me suis donc réorienté vers l'agriculture. Et...
Il y a longtemps que vous vous êtes réorienté ?
C'est ma deuxième année de production maraîchère. Et j'ai fait un BTS il y a 4 ans.
Alors, je vous donne l'opportunité d'avoir une maison en banlieue parisienne, d'avoir un bon salaire. Vous repartez ?
Aucune chance.
Merci. Donc, vous êtes de quelle région exactement, Mehdi ? Vous habitez où ?
À Chalancon.
Ah oui, vous êtes tout prêt, quoi, en quelque sorte.
Sans plus attendre, on va reparler un petit peu. Là, je suis en train de remettre un peu en place les ordinateurs. On va retourner à Vernoux, où finalement, au début du XXe siècle, existait un tram. Ce tram qui a été déclaré d'utilité publique le 14 avril, la veille de mon anniversaire. Je vous signale que si jamais, moi je suis né le 15 avril, donc voilà, bon bref. 1905, la ligne de tramway Saint-Péray et Vernoux fut ouverte aux voyageurs de marchandises et de marchandises également en 1910. Ça n'a pas duré très longtemps malheureusement. Le trajet de 30,7 km partait de Saint-Péray-Ville, raccordé à Saint-Péray marchandises en 1921, comprenait les gares de Saint-Péray, Alboussière, Boffre et Vernoux, les stations du Fringuet et de la Justice, je pense que tu connais, c'est le col de la Justice, hein, c'est ça là-bas. Voilà, d'accord. Les haltes, oui, parce qu'il fallait quand même, ça monte un peu, hein, malgré tout. D'ailleurs, l'autre jour, on est parti avec mon épouse, on est rentré, on était allé passer le réveillon dans les Alpilles, on est remonté à la descente, je suis passé par la Mastre, etc. Elle a été malade dans la voiture, et en remontant, on est passé par Vernoux. J'ai dit, attends, on va passer là, c'est quand même plus direct, plus agréable, la route tourne beaucoup moins. Effectivement, elle a pas été malade, donc c'est un signe que la route est nettement meilleure en passant par Vernoux. Donc, si jamais vous venez jusqu'à Radio des Boutières, passez par Vernoux, finalement, hein, depuis la vallée du Rhône, et vous arrêtez à Vernoux, voir un petit peu les Vernousins, qui sont des gens extrêmement sympathiques. Donc, le trajet donc de 30,7 km passait par toutes ces haltes et ces gares, et il y avait des arrêts facultatifs au Sauzet et à Châteauneuf de Vernoux. C'est bien ça. Eric confirme. Alors, donc, l'arrêté préfectoral, la vitesse était limitée à 25 km/h.
C'est vrai, c'est fou, quoi, je veux dire, à l'époque. Et c'était une vitesse hyper rapide pour l'époque. Parce qu'autrement, on allait à cheval, quoi. Hein, c'est vrai. Et donc, on pouvait aller à 16 km/h dans la traversée des localités. Donc, je précise, 25 km/h, c'était en campagne. 16 km/h, c'était dans la traversée des localités. Et 8 km/h dans la ville de Saint-Péray. Voilà. S'ajoutant à cela les difficultés de terrain et le manque de puissance des locaux, le trajet se faisait à une vitesse moyenne de 14,1 km/h. La ligne ne fut jamais rentable. Et c'est pour ça qu'effectivement, même si pendant la guerre de 14-18, un seul aller-retour par jour fut maintenu, en 1920, 40 personnes composaient le personnel, quand même, c'était un gros truc, hein, il y avait du monde et tout. Et en 1927, la ligne du tram électrique Saint-Péray-Valence fut achevée. Malgré les espoirs dus à cette nouvelle liaison, le déficit augmenta dangereusement. Le trafic voyageur cessa le 31 décembre 1929, celui des marchandises un mois plus tard. Voilà donc, c'est un article qui est paru dans l'Écho de Crussol, le numéro 32 du 1er juillet 2007. Alors là, j'ai des photos où on voit effectivement des locaux qui tirent des wagons, et c'est vrai que ça doit pas être évident quand ça monte, on comprend que finalement ça devait pas aller très très vite, mais c'est toute une histoire. Et toi, Eric, tu as connu la gare de Vernoux, parce qu'il y avait une gare.
Oui, j'ai connu, mais elle était arrêtée. Moi, j'ai joué sur le quai de la gare qu'ils ont détruit après par le passé. Donc j'ai des souvenirs puisque mes parents avaient une maison juste en face. Ce petit coin.
Voilà donc cette gare de Vernoux et ce tram de Vernoux, toute une époque. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour une rediff de l'émission Dans les pas du docteur Francus. Merci en tout cas d'être fidèle à l'écoute sur votre radio, quelle qu'elle soit, puisque l'émission est diffusée sur un grand nombre de radios. Donc on se retrouve la semaine prochaine, on parlera encore de Vernoux, du marché de Vernoux. Je vous proposerai des petits arbres. C'est un monsieur qui vend des petits arbres adaptés justement à ce qui se passe au terrain de l'Ardèche, de la Haute-Ardèche et même de la Haute-Loire. Nous sommes dans une grande région maintenant, Rhône-Alpes-Auvergne, on essaye de communiquer tous ensemble. C'est l'idée de cette émission, de vous présenter un certain nombre de patelins. Qu'il soit dans la Haute-Loire, qu'il soit dans l'Ardèche, vous, dans votre village, vous avez envie qu'on vienne parler avec vous et qu'on présente votre village, eh ben, n'hésitez pas, prenez contact avec votre radio qui relaiera le message vers notre studio qui est situé en Haute-Loire et qui est un studio, vous l'avez bien compris, d'enregistrement. Et nous pourrons effectivement à ce moment-là partir, venir vers vous avec des appareils d'enregistrement et faire ce qu'on a fait, comme par exemple aujourd'hui, ce que vous avez entendu à Vernoux. Voilà, on vous quitte, on vous dit ciao, 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 toute l'équipe, Sacha, Serge et Eric, et moi-même, Sam, et donc à la semaine prochaine.